Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les envoûtés de la critique, une nouvelle venue au club. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Camille Nevers de Libération, Eric Neuhoff assis à côté d'elle du Figaro. Je sens que ça va être chaud. Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et bien sûr d'Une heure en série tous les samedis soirs sur notre chaîne. Et enfin Michel Simon de Positif, Positif qui fait sa une ce mois-ci sur le film de Terrence Malick. Dans le courrier de la semaine, avis partagé sur Les Misérables de Lajli pour Mayoun Karimpour de Brie-sur-Marne. C'est un film magistral avec une mise en scène très inspirée et palpitante. Ce film déjà culte marque un tournant dans le cinéma français. Caroline Rowe de Bordeaux parle d'un grand film sans effet facile ni cliché, d'une intelligence radicale. Pour Arnaud Sanquer, ce n'est pas une simple haine 2.0, c'est bien plus fort que ça. Antoinette Campion a trouvé Les Misérables bouleversants, ses faiblesses techniques, on s'en fout, pour utiliser le langage de Xavier. Joseph Rubio, qui nous écrit de Singapour, juge que ce n'est peut-être pas un film novateur artistiquement parlant, mais c'est un film magnifique avec un bon sens du rythme et une justesse inégalée sur les banlieues. Pour Balthazar Cardozo de Paris, c'est un grand film qui nous fait découvrir un monde inconnu de la plupart d'entre nous et pourtant à notre porte, bien plus que le politiquement ambigu Bacurao. Il méritait amplement son prix du jury à Cannes. Pour l'instant, t'es un peu seul, hein, Xavier. Hein.
Oui, bah, c'est pas grave, j'assume. Hein.
Richard de Marseille regrette que Xavier soit passé à côté des Misérables, qui est ma plus belle claque, nous dit cet auditeur, depuis Police et auparavant La Haine. En revanche, voilà, il y a des fidèles de Xavier, comme Elisa Reveillot, qui nous dit « Si la première partie des Misérables est très réussie, scénario comme réalisation se dégrade dans la deuxième, jusqu'au pompon, la fameuse dernière scène, à la grandiloquence ridicule, n'est pas Scorsese qui veut le politiquement correct, a encore frappé, je le crains. » Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence, tout à fait d'accord avec Xavier, « Les Misérables n'est pas un bon film ». En revanche, il n'est pas manichéen. David Rondel de Garancière dans l'Eure se demande comment on peut s'enthousiasmer pour un film aussi moche et au scénario aussi pauvre. Il ne s'agit que d'un court-métrage rallongé au possible. Jenia Gollendorf du 9-3 voit dans Les Misérables le Xème film sur les banlieues, sans aucune originalité. Film lourdingue, caricature à la souhait, tous les blacks sont obèses, les gitans ont un faciès patibulaire, et ne parlons pas des frères musulmans, c'est affligeant. Voilà pour le courrier, très partagé quand même, hein, sur ce film. Enfin, Paul Le Serrano de Condon dans le Gers me reproche d'avoir consacré trop de temps au début de la dernière émission à The Irishman de Scorsese, film qu'on ne verra jamais en salle. Vous êtes le masque du cinéma, pas des téléfilms. Il est honteux et révoltant que Scorsese n'ait pas trouvé de producteur. Ce n'est pas une raison pour encourager vos spectateurs à se rendre sur Netflix, bénévole dans un cinéma de proximité, commune de 6000 habitants. Nous nous battons au quotidien, nous dit Paul Serrano, pour que nos spectateurs aient toujours une programmation de qualité. Est-ce que vous allez ouvrir maintenant une rubrique film en réseau, puis film sur ma montre? Jean-Louis Borry sort de ta tombe, merci de soutenir le film en salle. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Paul Serrano, Xavier ou Michel?
Bon, d'abord, si c'est un téléfilm, moi je vais me mettre au téléfilm, parce que c'est d'un niveau tout de même que...
Non mais tu comprends ce qu'elle veut dire.
Oui, mais je comprends pas, non, moi je comprends pas, enfin je comprends pas, parce que c'est un film, effectivement, elle le dit, qui n'a pas trouvé de producteur.
Elle dit que quand le masque...
Il l'a fait, je suis très heureux qu'il ait eu l'argent pour faire... Alors, j'aurais préféré qu'il soit fait pour le cinéma, mais je suis néanmoins heureux que ce film existe. Parce que c'est 3h30 de très grand cinéma.
Camille ?
Oui, moi j'aime pas le film, donc ça m'est un peu égal.
Non mais c'est la question, est-ce qu'il faut qu'on conseille aussi de temps en temps ?
Moi j'avais l'intention de conseiller un film Netflix ce soir.
À la fin ? Oui. Bon, alors très bien. Alors, Xavier.
Mais je trouve que c'est un faux débat. Le film existe, certes, sur Netflix, mais il existe. C'est une œuvre qui trouve sa place dans le parcours d'un grand cinéaste. Alors on peut aimer ou ne pas aimer. Ça, moi, je suis sur Scorsese toujours un peu hésitant. Mais voilà, le film existe. Ça veut dire quoi? Qu'on ne va pas lire Proust parce que le papier n'est pas assez grammé ou que l'édition n'est pas belle ou qu'on n'aime pas la couverture? C'est stérile. L'œuvre, elle est là. À nous de la découvrir. On a quand même en plus des qualités maintenant de découverte des films à la télévision sur des grands écrans qui atténuent un tout petit peu la. Même s'il y a suprématie du grand écran, la différence entre le grand et le petit, je crois que vraiment le débat n'a pas lieu d'être.
Allez, on commence avec Une vie cachée, le nouveau film de Terrence Malick, long de presque 3 heures, qui était en compétition au dernier festival de Cannes, où là, on peut dire qu'il n'a rien reçu, même pas une mention. Avec Auguste Dill, Valérie Pachner, Maria Simon, un film biographique qui s'ouvre d'ailleurs avec des images du Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl, sur l'Autrichien Franz Jägerstätter, dont Benoît XVI a fait en 2007 un bienheureux et un martyr. Non seulement ce paysan du Haut-Danube, joué par Auguste Dill, qui est marié, sa femme étant jouée par Valérie Pachner, et père de 3 fillettes, a été en 1938 le seul de son village à voter contre l'Anschluss, mais il a aussi refusé de combattre pour le Troisième Reich. Emprisonné comme objecteur de conscience, il a été exécuté à Berlin le 9 août 43. Un destin de résistant et de croyant que le cinéaste des Moissons du Ciel élève dans de très beaux paysages à la hauteur d'un parcours mystique, pour ne pas dire christique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Camille, pour ses débuts au masque Nevers de Libération, n'a pas follement... Le titre, je crois que c'était même une sacrée crise de foi.
Oui, mais les titres, c'est pas moi qui le choisis.
Alors, à l'intérieur, film grossier, film... Bah bon, il n'en reste pas grand-chose. Oui, oui, si, à un moment donné, tu dis ça, film
d'accord.
Grossier.
Ou... Alors. Bah oui, je ne fais pas partie de la secte malickienne qui chante les louanges du metteur en scène à chaque film. C'est un film que je trouve sulpicien, que je trouve très démonstratif de ce qu'est une vie de saint, avec des images insupportablement moches.
Insupportablement.
Oui, parce que cette espèce de grand angle constant avec des jump cuts au milieu et qui déforme un peu tous les paysages, moi ça me fait penser plutôt au réalisme socialiste qu'à autre chose. Je trouve ça assez pompier en fait, et cette voix off, parce qu'on va parler d'un autre film avec des lettres échangées, à savoir le film brésilien, mais là aussi c'est une histoire de lettres échangées entre le Franz, le soldat objecteur de conscience qui refuse le joug nazi. Mais en fait ce type ne fait rien, c'est un objecteur passif qui résiste en ne faisant rien. Donc c'est ça, c'est le saint, la vie cachée, personne ne saura qu'il a eu une vie héroïquement cachée, tapie. Alors il y a une scène avec Bruno Ganz que j'aime beaucoup, parce que je suis contente de revoir Bruno Ganz qui a disparu depuis, qui a de très belles mains, mais je comprends pas le traitement dans le film des Allemands qui parlent allemand quand ils sont en arrière-plan et quand c'est des personnages secondaires, ils parlent...
Mais sinon, y a beaucoup d'anglais.
Oui, sinon c'est en anglais. Bon, ça c'est un parti pris, pourquoi pas, on fait le film en anglais, Malick est américain, et c'est une longue tradition américaine de faire des films en anglais, espèce d'espéranto. En revanche, pourquoi est-ce que dès qu'il y a des SS, des méchants, ils sont là derrière lui à crier en allemand et en autrichien, comme si c'était vraiment les bourreaux. Il y a une espèce de rapport entre le bien et le mal, de manichéisme.
C'est quand même des bourreaux.
Oui, bien sûr.
Faut pas l'oublier.
Alors. Mais en même temps, les condamnés à leur langue barbare, comme si l'allemand était une langue forcément et de façon immanente barbare, j'ai l'impression qu'il y a un rapport au bien et au mal très manichéen dans le film, sur le côté on est dans le bien avec Franz dès le début et on restera jusqu'à la fin, alors qu'en face il y a une sorte de mal immanent face au bien
alors,
transcendant.
Michel.
Tu as raison de parler du côté christique, parce que c'est vrai que ce film, moi qui suis incroyant, je suis très capable d'admirer les œuvres de la foi. L'œuvre de Malick est une œuvre spiritualiste. Comme j'aime Claudel, comme j'aime Bernanos, ça ne me gêne pas du tout, même si je ne suis pas croyant. Donc ce procès qui est déjà fait avec Malick me paraît non fondé. On peut dire aussi qu'il utilise le grand angle, mais pourquoi pas, et qu'il déforme les paysages. Mais moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est qu'il est un des grands paysagistes du cinéma contemporain. Je veux dire qu'il y avait très peu aujourd'hui de cinéastes dans le monde qui filment la nature avec un tel lyrisme. Et d'ailleurs, c'est ce côté spiritualiste. C'est-à-dire, c'est un peu le regard de Dieu. On pense à la Genèse. On pense vraiment à la création du monde. C'est-à-dire que Malik regarde des cascades, il regarde des montagnes, il regarde des prairies. Et il y a une sorte de fascination pour la beauté du monde. Et c'est pas pour rien que, au début, il y a Hitler en noir et blanc qui est dans un avion et qui va ensorceler les foules. Et la musique, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire la passion selon saint Matthieu. Donc il y a toujours ce côté-là. D'autre part, Malik, pendant 3 films, comme Godard, a supprimé la narration, il a supprimé les intrigues, il a fait des films expérimentaux. Et là, on retrouve le Malik du Tree of Life, on trouve le Malik du Nouveau Monde, c'est-à-dire un cinéaste qui nous raconte une histoire extraordinaire. D'ailleurs, j'ajoute que Malik a traduit Heidegger, il a fait sa thèse sur Heidegger, et ce que ce film nous montre, c'est que le plus grand philosophe, d'après les spécialistes, le plus grand philosophe du XXe siècle, avait une adoration absolue pour Hitler, à quoi sert la philosophie, alors qu'un paysan, comme ce paysan, tout de suite a vu ce qu'était Hitler. Donc c'est une histoire magnifique, et je terminerai en disant que c'est un film totalement à l'écart de notre époque. C'est un film qui n'est absolument pas par rapport à l'ironie, le second degré, le cynisme qui caractérise beaucoup d'œuvres. C'est un film, effectivement, qui traite du sublime. J'emploie pas sublime, comme on dit, c'est sublime à propos de n'importe quelle œuvrette, comme on dit surréaliste à propos de n'importe quoi. Non, au sens propre du terme, c'est un film sublime, c'est-à-dire qui se rattache à la grande peinture allemande de Gaspard David Friedrich, à la peinture américaine, à Emerson, au transcendantalisme. Et dans ce sens, c'est un film bouleversant de beauté, mais je comprends qu'on soit allergique.
Alors, entre Libération et Positif, où se place Xavier ?
Alors, mon journal habituellement aime beaucoup Terrence Malick, beaucoup plus que moi, je le reconnais. Cette fois-ci, ils sont un tout petit peu revenus sur Terrence Malick, mais voilà, ça ne prédestine de rien pour le prochain film. Moi, je reste exactement comme Camille, mais abasourdi par la pesanteur, la lourdeur du film. S'il fallait le résumer, c'est la mélodie du bonheur qui se finirait mal. C'est-à-dire qu'on a à peu près, mêmes paysages.
Sans Julien Drouze, hélas.
Voilà, sans la comédie musicale. Qu'est-ce que tu me disais, Michel ?
Wagner, Claudel sont lourds.
Alors, déjà, quand tu as cité Claudel et Berlanos, la grande différence avec Malick, c'est qu'il questionne leur foi. Malick ne la questionne jamais. Elle est au premier degré, prosélyte, extrêmement peu intéressée par le doute, alors que c'est, à mon avis, ce qu'il y a quand même de plus intéressant. Lui, voilà, il le filme déjà comme le martyr qu'il va être. Donc, c'est pas très intéressant. La progression du personnage, elle n'est pas accompagnée par la mise en scène. La mise en scène, c'est toujours à 2-3 versions de la même séquence qu'elle monte de manière un petit peu aléatoire. Il y a un adieu à la mère. Alors, la mère pleure, la mère est contre la grange, la mère s'agenouille, la mère a les mains levées vers le ciel, parce que là, le ciel, on va bien nous le montrer quand même 250 fois pendant le temps du film pour bien nous montrer que Dieu est là et que même s'il va pousser cet homme au martyr, il est quand même présent dans tout. Enfin, c'est quand même manichéen, c'est lourdingue, ça n'est pas beau. Moi, je suis comme Camille, cette anamorphose du haut grand angle qui déforme les visages au bout d'un moment, moi, ça me gêne, mais vraiment. Et je suis comme Camille, c'est-à-dire cette utilisation de l'anglais par des acteurs allemands, ce qui n'a pas été dit jusque-là, pourquoi ne pas utiliser la langue de Goethe qui est absolument magnifique, avec cette graduation. Plus on s'approche du régime nazi, plus on est fasciné par Hitler, plus l'accent que l'on prend allemand sur l'anglais est entendu. Et effectivement, quand les nazis et les SS discutent entre eux, ils parlent allemand, ça n'est jamais sous-titré, comme une espèce de gutturalité qui effectivement...
Gutturalité.
Ah ben oui, mais montrerait la méchanceté, enfin, une espèce de langue qu'on ne prendrait même pas la peine de traduire. Et c'est très lourd, avec un sujet magnifique, mais avec le sacrifice de la femme. En plus, il y a quand même un côté... un peu chrétien bon. Dans le rapport.
On n'est pas chinois.
Alors, oui, voilà. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
Et j'aimerais avoir l'avis maintenant du Figaro.
C'est inspiré de faits réels déjà et rien n'empêche d'être un petit peu plus subtil.
Alors, où se situe le Figaro et Éric Noël ?
Tout à fait du côté de Michel, parce que là, il est évident qu'on parle de quelqu'un qui ne fait pas tout à fait le même métier que les gens dont il est question ici en général. C'est... Mais le problème, c'est qu'on est tellement habitué maintenant à la banalité, à la laideur, que la beauté. Non seulement on ne la reconnaît plus, mais on ne la supporte plus. C'est ce qui se passe avec ce film, parce qu'on est tout de suite dans un autre monde. On est dans cette salle pendant 3 heures, on voit ce héros, parce que c'est un héros peut-être même un saint. Moi, je suis beaucoup moins calé que tous les critiques professionnels. Je n'avais jamais entendu parler de ce bonhomme-là. C'est une histoire vraie, mais il en fait quelque chose de magnifique et de sublime, comme dit Michel, parce que sublime, c'est pas le qualificatif qu'on voit sur les colonnes Maurice pour tous les films français. Sublime, c'est le superlatif de superbe. Et le film est comme ça. Le film tient par l'image, par la voix off, et l'histoire de l'allemand qui n'est pas traduit et qui est guttural. pas tout le temps. Quand c'est quelqu'un avec qui il discute, c'est traduit. Mais ça veut dire que quand ce sont des Allemands, des nazis qui hurlent, lui ne les écoute pas. Donc, nous, on n'entend pas non plus ce que ça veut dire. Et tout dans le film est comme ça. Les voix off, les lettres qu'on entend, le trajet de ce type-là, à côté de qui Bartleby est presque un fou énergique, parce que lui, c'est pas « je ne préfère pas », c'est « je ne veux pas ». Je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas m'engager dans l'armée, je ne veux pas prêter allégeance à Hitler. Et il fait ça tout seul, avec la certitude de sa foi. Moi, je suis comme Michel, je suis totalement incroyant. Mais quand Malik me raconte ces choses-là, je suis prêt à entrer dans une église, à écouter un sermon si c'est lui qui le fait. Et le film m'a transporté. Et le problème de ce film, c'est que quand on sort, on trouve que le monde est encore plus laid et banal que 3 heures auparavant.
Une vie cachée de Terrence Malick. Je savais qu'on consacrerait l'essentiel de cette émission à ce film, mais je ne pensais pas à ce point-là. Eh bien, je vous laisse juger et j'imagine que vous allez être nombreux à nous écrire. À Cannes, toujours, mais dans la section Un certain regard, où il a été primé, il y avait ce film qu'évoquait Camille, qui est La vie invisible de Reddice Gusmão, du brésilien Karim Aynouz, d'après le roman de Marta Batalha, avec Carole Duarte, Julia Stockler, Gregorio du Vivier, un film qui d'ailleurs représente le Brésil aux Oscars. À Rio, on est en 1950, deux sœurs inséparables, Eurydice, 18 ans, qui est joué par Carole Duarte, qui rêve de devenir une grande pianiste, et puis Guida, 20 ans, c'est Julia Stockler, qui rêve du grand amour. Elles vivent chez leurs parents, et puis quand Guida tombe enceinte d'un marin et qu'elle est répudiée par leur père, les sœurs fusionnelles vont devoir construire leur vie l'une sans l'autre, sans pour autant renoncer à se retrouver un jour. Ça dure 2h20, donc je ne peux pas évidemment tout résumer. Le distributeur vend ce film aux sentiments exacerbés, parfois aux couleurs assez saturées, comme un grand mélo tropical et féministe. Est-ce que ça vous semble convenir à ce qu'est ce film, Xavier ?
Alors, c'est très exactement le metteur en scène, Karim Aynouz, qui a trouvé cette formule du
mélo. Parce que je l'ai vu sur toutes les affiches.
Mais du coup, ils l'ont mis en avant sur l'affiche. Et c'est exactement ça, c'est qu'on ne peut pas dire mieux de ce film que moi, personnellement, j'aime énormément. C'est un mélo. C'est un mélo qui s'assume, c'est un mélo qui se revendique, c'est un mélo qui va chercher, en plus, toutes les origines du mélo, opératique, lyrique, politique, sociale aussi à sa manière, parce que le mélo s'est toujours inspiré quand même d'une réalité sociale.
Qui pourrait être d'ailleurs, j'en parle à un professionnel, à la limite de la série d'ailleurs, dans son rythme et dans son...
Absolument,
et dans ses
pourrait tendances. Être découpé, il y a des coups de théâtre, il y a ce qu'on appelle des cliffhangers dans la série, il y a des séparations, il y a le père qui va effectivement cacher les lettres que la sœur expatrié envoie à son autre sœur. Donc il y a vraiment, et c'est un film éminemment moderne, puisque quand il est monté sur scène pour présenter son film à un certain gars, la première chose qu'a dit le réalisateur, c'est le nombre de femmes tuées par jour au Brésil. Donc c'est une réalité, et c'est l'histoire d'une femme qui disparaît, c'est l'histoire d'une femme qu'on va effacer, que sa famille va effacer du portrait, de l'image centrale, elle va disparaître peu à peu, sauf que ce que n'ont pas pensé le père et la mère est là en plus soumise au père, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est ce lien fusionnel qui existe entre les deux sœurs et qui va perdurer. C'est bouleversant comme un mélo, sauf que c'est tropical, il y a de la sueur, il y a du sexe, c'est cru.
Et puis les deux sont formidables.
Les deux sont formidables. Elles viennent du théâtre, elles n'avaient jamais joué au cinéma jusque-là et elles ont une présence.
Elles viennent du théâtre.
Absolument. Il y a une scène bouleversante où elles manquent de se retrouver et c'est remarquablement mis en scène. Il y a une sensualité débordante.
Oui, il y a
c'est...
même des scènes assez...
Ah ben, il y a des scènes crues, mais c'est là où chaudes. Se loge le féminisme en plus, qu'effectivement, le mélo est généralement un peu prude et là, il va aller chercher effectivement dans la sexualité féminine constamment vue du point de vue féminin. Une force, une puissance. C'est 2h20, mais c'est le plaisir aussi. Alors, vous êtes emporté par les 3 heures de Malick. Moi, je suis emporté par les 2h20 de ce film qui s'écoule, qui sent la sueur, qui sent la chaleur moite. Où la nature semble avoir envahi les lieux de vie, les maisons, les appartements, les rues. Enfin, voilà, je trouve que c'est un film galvanisant, c'est un merveilleux film.
Il me semble que le message est passé. Michel.
Je peux faire un petit peu plus.
Michel.
Ben, moi, je vais confesser que j'avais pas tellement apprécié le film à Cannes, et par conscience professionnelle et devant l'enthousiasme de beaucoup de mes confrères, j'ai revu le film qui m'a beaucoup plus intéressé. Je suis tout à fait d'accord avec le côté féministe, le côté, d'ailleurs, le mélodrame est un genre qui peut être considéré comme aliénant, mais aussi un genre féministe dans beaucoup de cas. J'ai trouvé cette idée d'avoir ces deux sœurs. L'une est induite en erreur, elle croit que sa sœur habite à Vienne, à jouer du piano, alors qu'elles habitent la même ville. ville, elles ne se rencontrent jamais. Ça, c'est une chose qui est très, très forte. Et d'autre part, bon, la description, la photo d'Hélène Louvard est très bien. Mais en même temps, je pensais à un cinéaste un peu oublié aujourd'hui, un immense cinéaste latino-américain qui est Arturo Ripstein, un Mexicain, qui faisait des mélodrames, mais où il y avait pour moi une force beaucoup plus grande. Je trouve que ce film manque un petit peu de cette force. Je trouve que c'est bien, c'est un bon film. Je reviens sur ma première impression, mais en même temps, je trouve pas que c'est égal au grand mélodrame de Sirk, de Ripstein et d'autres.
Éric.
Ben, on a envie de dire Ryo, bravo. Je suis pas d'accord du tout avec la publicité qui dit que c'est un mélodrame. C'est du romanesque.
Un grand mélotropical.
Mais c'est plus du romanesque absolu. Là, on a la vie de ces deux filles sur des années et des années. Et ça prouve, elles sont tellement fusionnelles dans leur enfance et dans leur jeunesse que ça démontre la fausseté du théorème mathématique que deux parallèles ne se rejoignent jamais. Et on les voit vivre, vieillir, tout ça à cause d'un mensonge du père. Et il y a un côté, par instant, c'est assez beau souvent. Il y a des chutes d'images, ça fait penser à In the Mood for Love, par instant. Moi, ça m'a aussi fait penser au roman espagnol Ordesa, là, qui a eu un prix cet hiver là, de Manuel Vilas, avec cette nostalgie, un côté à la fois vénéneux, mélancolique et... avec des scènes très crues. Il y a une nuit de noces, oui, là, sur le carrelage de la salle de bain.
C'est à celle-là que je faisais allusion.
Qui est quand même gratinée. Puis il y a quand même aussi les rêves brisés de ces deux filles. L'une qui croyait à l'amour, l'autre qui voulait devenir une pianiste, aller au conservatoire de Vienne. Et tous ces mensonges créent de la fiction comme s'il en pleuvait. Et c'est un très très beau film qui est presque aussi beau que le Malik, mais un petit peu moins. Un petit peu moins.
Là, tu fais rire Camille, hein.
Non, c'est un film très, très intéressant, et c'est 2h20, on a presque envie de s'y rouler comme dans un édredon.
Camille.
Oui, c'est un très, très, très beau film, contrairement au Malik. c'est un des plus beaux films de l'année, moi. Pour moi, vraiment, c'est pas parce qu'on arrive en fin d'année qu'il faut laisser les films mourir tranquillement. Non, et c'est un très, très beau film qui est un mélodrame, je pense, et le romanesque et le mélodrame ne sont pas incompatibles. Et le mélodrame, pour moi, c'est vraiment le genre de l'empêchement, des amours impossibles, de la vie empêchée. Et donc, c'est un genre féministe, presque, puisqu'effectivement, chez Douglas Sirk, et queer, pour moi, c'est vraiment les deux choses, avec une espèce d'excès, de mauvais goût, coloré, qu'on peut voir chez Sirk, chez Minnelli, enfin, dans les grands mélodrames flamboyants, puisque c'est des mots qui vont ensemble. Et dans ce film, c'est ça, c'est le côté un peu mauvais goût des telenovelas avec le grand romanesque sur plusieurs décennies où on commence avec les jeunes filles encore jeunes filles qui deviennent des femmes, l'une mariée, l'autre fille-mère dans les ruelles de Rio. Tout est fait comme dans certains grands films. Je ne vais pas écraser ce film sous les références, mais enfin, j'ai vraiment pensé à des beaux films qui étaient celui de Griffiths, Les Deux Orphelines, ou celui de Max Ophuls, Lettre d'une Inconnue, avec comme ça deux personnages qui échangent et qui se croisent jamais, avec un amour vraiment impossible. Et nous, on est spectateurs de ça, c'est le cas de le dire. On espère que les années passant, elles seront dans des quartiers. Il y en a une qui est bourgeoise et l'autre qui est à la rue, qui est semi-prostituée, ouvrière, etc. Enfin, il y a vraiment tous les clichés possible. Il y a une image magnifique d'Hélène Louvard qui est vraiment incroyablement belle, qui fait penser autant à du Olivera pour moi qu'à du Fassbinder parfois, pour le côté un petit peu la vulgarité dans laquelle le film va sur les hommes. Hein. On voit des pénis en gros plan pour le viol conjugal de la nuit de noces. Il y a vraiment quelque chose où le film y va, quoi. C'est pas un film fleur bleue, c'est un film assez violent. Et donc je pense qu'il a tiré du genre mélodrame ce qu'il a toujours été, tout en l'actualisant avec ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, le féminisme, etc.
C'est La vie invisible de Réditché Gusmão et c'est Karim Enouz, ou Enouz, je ne sais pas comment on dit. Notre-Dame, le cinquième long métrage de l'actrice Valérie Donzelli, avec Valérie Donzelli, Pierre de la Donchamp, Boule Lilaners, Virginie Ledoyen et Philippe Catherine. Un film tourné 4 mois avant, il faut le préciser, l'incendie de la cathédrale. Valérie Donzelli incarne une architecte à qui échoua, par un miracle que je vous laisse découvrir, ou une fantaisie, la tâche donc de réinventer, de moderniser le parvis de Notre-Dame, tout cela sous l'œil de la maire de Paris, qui est jouée par Isabelle Candelier, laquelle est escortée par un conseiller qui n'est autre que Philippe Catherine, Le seul problème, c'est que sur sa maquette figurent des sorties de métro en forme précisément de phallus. Affolement à la mairie, colère chez les fidèles, et pendant ce temps-là, Maude Crayon, donc l'architecte, voit débouler dans sa vie, qui est déjà assez compliquée, son ex, qui est joué par Thomas Simessa, qui ne va pas bien du tout. Le dernier dont Zélie, comme réalisatrice, était Marguerite et Julien. C'était, dans mon souvenir, assez empesé. Là, je trouve qu'elle, il y a une légèreté dans cette fable qui, où ça ne vous a pas échappé, les Parisiens ont pris l'étrange habitude, un peu comme au masque dans la rue, de s'envoyer des paires de claques pour n'importe quoi. Eric, est-ce que ça t'a plu ?
Oui, et puis ça m'a réconcilié avec Donzelli, là.
Pourquoi t'étais brouillé ?
À cause de Marguerite, là.
Ah oui.
Qui était quand même un peu...
Et Julien.
Pesant. Mais là, c'est son petit charme habituel, hein. C'est un film léger, mignon comme tout, qui annonce la couleur. Dès le générique, on entend la musique de Trenet, Douce France, comme au début de Baiser volé de Truffaut. Elle se place complètement dans une néo-nouvelle vague. Elle ose même, à un moment donné, en voix off, dire « Didier accepta de passer une nuit chez Maude ». Donc, on voit très bien où on est. Et tout ça marche bien. Même les maladresses, même les numéros chantés ou les parodies de comédies musicales qui, ailleurs, resteraient coincées en travers de la gorge, on les accepte. Il y a une maire de Paris qui...
Elle est bien.
Ah, elle est bien en Hidalgo, là.
Sans faire un pastiche d'Hidalgo.
Non, il y a quelque chose. Et puis, on se dit, en voyant ce film, que... Il aurait pu arriver une catastrophe bien pire à Notre-Dame que l'incendie, c'est que ce projet a été accepté dans la réalité, parce que c'est épouvantable.
C'est épouvantable.
Oui, il y a le côté un peu surréaliste avec les maquettes qui s'envolent, mais il y a une espèce de grâce. Non, c'est tout à fait charmant.
C'est 1h30, hein.
Et je crois que personne ne donnera de gifle à Donzelli quand le film sortira.
Camille?
Alors, j'ai droit de réserve, parce que Valérie a été ma comédienne 2 fois. J'ai préféré faire l'impasse pour pas faire...
Oui, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que Camille Nevers de Libération a aussi une vie de réalisatrice.
Oui, parallèle.
Voilà. Et donc,
fantomatique.
Au nom de ça, tu préfères mettre de côté...
Valérie, oui, je vais pas...
D'accord. Xavier.
N'ayant pas eu le plaisir de diriger Valérie Ponzelli, je peux me permettre de dire tout le bien que je pense de cette comédie, la comédie française... Dans ce truc générique qui englobe tout et son contraire et qui ne veut rien dire, elle est souvent caractérisée par une idée de pitch. Un truc comme ça qu'on va immédiatement poser et qu'on va décliner plus ou moins laborieusement pendant 1h30 avec des stars. Chez Donzelli, elle fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'elle ose convoquer constamment des choses originales.
Ah, pop, elle ose peps, tout. Hein.
Elle ose tout. Mais oser, ça n'est pas réussir. C'est-à-dire que ça pourrait être un puzzle mal ficelé. Les pièces ne pourraient ne pas s'emboîter. Elle a une grâce. Elle a une grâce de la gourmandise, de la confiance en ses comédiens, du bonheur de filmer, parce qu'il y a aussi ça. C'est pas une cinéaste qui s'emmerde quand elle filme. Elle a un vrai bonheur d'aller filmer des visages qu'elle aime, des situations cocasses. Elle est constamment en mouvement dans la vie d'Onzélie et son personnage de Maude Crayon l'est tout autant. Elle est constamment en train de courir, de prendre un parapluie parce qu'il pleut beaucoup sur Paris, de récupérer les enfants, de faire sortir son ex qu'elle a accepté pour la nuit par la porte derrière. Mais évidemment, il est tellement maladroit qu'il finira par révéler sa présence. Voilà. Je trouve qu'elle arrive à raconter ce qu'est une femme d'aujourd'hui avec son métier, faire des enfants.
D'autant que j'ai appris dans le dossier de presse qu'elle avait voulu, elle avait espéré à une époque être architecte.
Ça lui ressemble. La satire n'est jamais lourde, elle est toujours subtile. Les personnages existent vraiment, ce soit Samir Ghesmi dans le rôle d'un patron qui lui promet depuis des années un contrat qu'il ne lui signera évidemment jamais. Isabelle Candelier est formidable, évidemment, dans le rôle de la maire de Paris. Mais il y a Philippe Catherine qui est à côté et avec lequel elle forme un duo. Il y a Claude Perron et elle ose effectivement. Elle ose Jacques Demy, elle ose Truffaut, elle ose même Tilly à un moment dans une scène théâtrale où elle reconstitue toute sa troupe sur une seule scène, une espèce de théâtre réaliste comme ça, qui est extrêmement savoureux. Ça chante, ça danse, ça se poursuit, ça se retrouve, ça s'envole, ça s'aime. Ben voilà, c'est tout ce que le cinéma devrait être.
Michel ?
Je dois dire, je suis un peu abasourdi parce que je trouve ce film, le personnage s'appelle Maude Crayon, c'est un film crayonné, mais malheureusement, je trouve pas que ça s'envole du tout. C'est-à-dire, j'entends.
T'as pas été sensible à la légèreté
j'ai été sensible aux intentions. C'est-à-dire, je pense que le film, effectivement, mais c'est un film très parisien, très bobo. Les acteurs sont approximatifs, le rythme est également extrêmement inégal, et que c'est pas du tout le grand film dont vous me parlez. Je l'ai pas vu du tout comme ça. J'ai vu un film maladroit, sympathique, évidemment, extrêmement sympathique, qui se veut très poétique, etc. Enfin, on regrette René Clair.
N'empêche qu'il y a de temps en temps des fantaisies qui
pourraient durer. Oui, mais c'est achevé.
Notre-Dame de Valérie.
Tout ça, René Clair.
Donzelli, Les Envoûtés, film pseudo-fantastique de Pascal Bonitzer avec Sarah Giraudot, Nicolas Duvauchel, Nicolas Maury et même Josiane Balasco. Sarah Giraudot qui campe ici Colline, une journaliste pigiste d'un magazine envoyé dans le Pays Basque pour interviewer Simon, qui est un artiste assez bizarre, hein, joué par Nicolas Duvauchel, qui aurait vu apparaître le fantôme de sa mère au moment où, loin de chez lui, elle se mourait. Une interview que Colline est d'autant plus curieuse de faire que sa voisine, hasard, essayait de me suivre, Annabelle Lopez, la comédienne, prétend de son côté avoir vu le fantôme de son père. Tout cela inspiré, mais quand même très lointainement, d'une nouvelle d'Henry James, film qui a reçu un très bel accueil, à ma grande surprise, dans la presse, y compris dans Libération, Camille.
Vous trouvez ?
Non ?
Alors c'était
plutôt positif.
Mitigé, je crois. Ou alors, j'ai pas lu le même article que vous, mais j'ai pas écrit, donc c'est normal. Écoutez, moi, le film, je suis assez partagée. C'est un petit peu l'univers de Bonitzer, dont il faut peut-être rappeler qu'il a été un éminent critique au Cahier du cinéma et un éminent scénariste pour des cinéastes qui ont déjà pas mal œuvré dans le fantastique, comme Raoul Ruiz ou Jacques Rivette. Le problème de Pascal Bonitzer, c'est que c'est un univers très cérébral, très intellectuel, et c'est difficile d'avoir une empathie ou de l'émotion, d'accéder au sentiment. Là, le sentiment Henry James qu'il veut faire passer, c'est la jalousie de cette jeune femme qui est jouée par Sarah Giraudot. Et je trouve que le film est en morceaux. Il y a des morceaux qui sont réussis, ça fait comme un puzzle. Je me souviens de choses très très jolies. Tout ce qui est sur le parking de la gare, par exemple, les scènes. Moi, j'avais jamais vu un parking de gare filmé comme ça, avec des scènes d'adieu. On va en voiture et puis finalement on se perd. On se dit alors, les longs adieux, c'est pas sur les quais de gare, c'est le parking, quoi. Donc ça, vraiment, c'est un décor que j'aime bien. Je trouve que c'est un film fait de décors, avec en même temps des choses qui sont complètement désincarnées. C'est un petit peu si on devait quand même méchamment le comparer à Jacques Rivette, c'est du Rivette à l'os, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la chair de la belle noiseuse, puisqu'il s'agit aussi de peinture dans le film de Bonitzer. Il faudrait comparer Emmanuel Béart et Sarah Giraudot, c'est-à-dire que c'est vraiment deux corps différents. Il y a un corps vraiment pulpeux, charnel, et l'autre qui est vraiment une espèce de sac d'os. Mais voilà, je trouve qu'il y a un film un petit peu desséché, très cérébral, mystérieux, mais qui au bout du compte laisse des bribes de ce qu'il aurait pu être.
Éric.
Pour adapter Henry James, il faut être costaud, hein. Faut être Truman Capote quand il s'attaque au tour d'écrou. Et là, Bonitzer n'est pas du tout à la hauteur. C'est comme quelqu'un qui est habitué à conduire une deux chevaux, qui se retrouve au volant d'une Ferrari, il va dans le décor au premier virage. Et là, c'est un film d'une vacuité, d'un néant absolu. On aimerait qu'il y ait des fantômes, mais on les voit jamais parce que ça meublerait un petit peu cette histoire totalement vaine. Et puis c'est un film agaçant, comme par hasard, le personnage est peintre et il peut pas être berger ou conducteur de tramway, c'est un peintre. Et même Duvauchel, qui est un excellent acteur, là-dedans n'est pas très bon. Il faut dire qu'on lui met dans la bouche des phrases qui commencent par « parfois ». Qui est-ce qui dit « parfois, je fais ça » ? Non, personne. Et tout le film est comme ça, il y a la petite voix d'enfant de Giraudot qui réussit à être exaspérante, alors qu'on la trouve toujours délicieuse.
Elle était mieux dans Vétérinaire, dans Petit Paysan.
Oui, et puis dans le Bureau des légendes, partout, sauf là. Mais c'est un personnage étrange, Bonitzer, parce qu'il peut faire des films très rigolos, pas du tout cérébraux de temps en temps. Et là, quand il s'attaque à des trucs comme ça, je n'ai pas compris où il voulait en venir, ce qu'il voulait faire et à quoi ça servait tout ça.
Mais moi non plus, je te rassure.
Heureusement, il y a les Pyrénées qui sont très bien.
Michel ?
Oui, c'est pas le meilleur film de Bonitzer. C'est vrai que c'est un scénariste. Il a travaillé avec Raoul Ruiz, qui savait faire des films de fantômes. Je dois dire, j'en ai un peu ma claque des fantômes et des zombies. C'est une année vraiment épuisante avec ses apparitions.
Il y a Balasco en rédactrice en chef, ça va. C'est pas un fantôme.
Bien. Alors, Bonitzer, c'est vrai que c'est un spécialiste de psychanalyse. Il a écrit de bons textes.
Il est pas guéri, hein, à mon avis.
Textes théoriques, mais c'est un peu une farce lacanienne qui m'a laissé un peu songeur. Je dois dire, j'ai jamais pénétré. Non. Ce qui m'intéresse plus, puisqu'il a été un bon critique au Cahier du cinéma, c'est que j'ai découvert que dans Libération et dans Le Monde, il avait une critique très supérieure au film de Terrence Malick. Je me suis demandé si Terrence Malick avait commencé par écrire au Cahier du cinéma, il aurait certainement une meilleure critique aujourd'hui.
Xavier,
je vais être le seul à défendre le film, même si je suis entièrement d'accord avec Camille. Décidément, ce soir, c'est la rencontre et l'union parfaite.
Ça ne se reproduira plus.
Non, mais je te rassure. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de théorique, d'abstrait, de cérébral chez Bonitzer, c'est une évidence. Mais là, je trouve que ça fonctionne bizarrement. Dans cette désincarnation, il se passe quelque chose. Il y a un moment, Sarah Giraudot ramasse un livre dans le train et elle lit cette phrase. En tout cas, un cadre nous permet de la lire. Un tiers présent qui incommode. Et je trouve que ça résume extrêmement bien le film. Le tiers présent pouvant être à la fois le fantôme, les fantômes que croient avoir croisés les personnages principaux du film, et puis cette jalousie qu'elle fait naître elle-même, puisqu'elle veut absolument présenter l'homme qu'elle aime à une autre personne, et parce que simplement ils ont en commun cette expérience d'avoir croisé quelqu'un qu'ils ont perdu. Et bizarrement, quand on regarde un petit peu le film précisément sur son travail de cadre et sur son travail de montage, il y a toujours des regards, il y a toujours des lignes de fuite qui font exister le hors-champ, comme si effectivement il y avait, de manière taraudante, un esprit, un fantôme, quelque chose qui était là, qui surveillait, qui incommodait les vivants. C'est pas didactique, c'est effectivement un peu théorique et pas toujours suffisamment incarné en termes de cinéma, mais la proposition, elle est là, et moi, franchement, je trouve qu'elle m'intéresse, puisque, voilà, fantôme, jalousie, fantasme, quelque part, pour être sur un point commun, c'est pas inintéressant quand même.
Eh bien, ce film qui t'a envoûté, c'est Les Envoûtés, et c'est Pascal Bonitzer.
J'aime beaucoup Sarah Giraudot, qui n'est pas un sac d'os. Camille, non. Hein.
Par rapport à Emmanuel Béart, pardon.
Lola vers la mer.
J'aurais dit ça, moi.
Le deuxième film du Belge Laurent Micheli. Et un chapitre supplémentaire au cinéma transgenre, décidément très en vogue. On se souvient de Girl d'un autre Belge, Lucas Dont, avec Maya Bollers dans le rôle de Lola, qui est née garçon et qui apprend à 18 ans qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer. Sa mère, qui devait la soutenir financièrement, vient de mourir. Et pour respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui est joué par Benoît Magimel, plus bourru que jamais d'ailleurs, qui ne se sont pas vus depuis 2 ans, doivent se rendre jusqu'à la côte belge. Voyage évidemment pendant lequel, assez bref, hein, le film dure 1h30, pendant lequel les deux vont devoir renouer des liens plus que distendus. Xavier ?
Je suis ravi de savoir qu'il y a pratiquement un genre du cinéma transgenre maintenant. Oui, il y en a eu 2 cette année, mais enfin il y en a
transgenre
eu...
Transgenre belge.
Pendant 100 ans.
Transgenre belge. Ah oui ?
Sur les 600 films qui sont faits par an, ça en fait 2.
En Belgique,
ça reste quand même une mini-vague. C'est vrai que passer après Girl, c'était compliqué. Moi, j'aime plutôt vraiment le film Là vers la mer. J'ai été touché, j'ai été sensible. C'est totalement prévisible, nous sommes d'accord. Il n'y a rien de surprenant dans les aboutissants du film. Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de victimisation du rôle de Lola. Je trouve qu'elle a un côté très farouche, très nerveux face à ce père qui n'est pas non plus condamné ni par l'écriture ni par la mise en scène. Et de temps en temps, le scénario comme la réalisation s'offre des digressions comme ce passage transitoire dans un bordel à la frontière absolument magnifique tenu par une sorte de Marianne Faithfull qui va être un
dodo là. Son mur féminin.
Tu vois qu'il faut jamais que tu dises quoi que ce soit. C'est toujours le dérapage assuré. Et que je trouve absolument magnifique avec à la fois la vie de la nuit, la vie du matin où elles vont toutes se retrouver autour de la cafetière qui est en train... Voilà. Je trouve qu'il saisit des moments et il fait plus que les saisir, il les écrit, il les accompagne, qui sont constamment là pour étoffer un film que l'on croit comprendre avant qu'il ne se fasse et qui est quand même plein de surprises.
Camille.
Oui, c'est pour moi un film en pilotage automatique. C'est plein de bonnes intentions. C'est ce que j'appelle aussi un film sur le papier. C'est-à-dire que on sent que le scénario a bien été travaillé pour aller dans les financements, les commissions et pour complaire à peu près à tout le monde. Donc, il est très lisse. Il y a effectivement ce moment dont parle Xavier qui est le moment où il y a cet orage, une espèce de chose comme ça très 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 forte avec le bordel. Tout ce moment-là est très beau parce qu'on commence à être dans une mise en scène dans un cinéma. On dépasse le simple scénario, le simple antagoniste, le papa, la fille trans, et alors peu à peu, avec l'urne funéraire. Alors moi, ça m'a fait penser à un film que j'adore qui s'appelle Le Chêne de Lounchad Pintilier, où une fille comme ça transportait les cendres de son père, en l'occurrence, pour l'enterrer sous un chêne. Là, c'est les cendres de la mère que le père et la fille, donc malgré, enfin, dans une espèce de road movie, malgré eux, vont. Et donc, je trouve que le film est vraiment un premier film sage, assez appliqué, qui veut pas trop trop risquer de choses, et qui sans doute plaira à tout le monde.
Eric.
Girl était un film épatant, mais ce qui était un petit peu gênant, c'est que c'était...
La comédienne était formidable. Ouais,
formidable, mais ça passait comme une lettre à la poste. La mère, on savait pas où elle était, tout le monde trouvait normal ce qui arrivait. Alors que là, on voit les aspérités du sujet. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que le père, lui, ça coule pas de source, là. Il est quand même un peu dépassé. Et il a la chance d'être incarné par Benoît Magimel, qui est un acteur qui devient un peu notre Jeff Bridges, là, avec ce côté... buté, mais en même temps déchiré de l'intérieur. Et le film est aussi un road movie, plein de scènes assez réussies. Et c'est un premier film, faut attendre le second. Et moi, je comprends rien à ces histoires de genre, mais le film, en tout cas, est du genre réussi.
Ça, tu comprends quand même, ça, quand même, non, l'histoire?
Si, si.
Michel?
Oui, moi, je suis partagé. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un côté un peu convenu, un peu pédagogique, un peu, comme ça, politiquement correct. Et en même temps, c'est vrai que les deux acteurs sont formidables. Et que ce voyage, j'ai pensé à cet ancien film de Alain Cavalier, Un étrange voyage, où il partait sur les routes avec sa fille Camille de Casablanca, Jean Rochefort. C'est touchant, c'est des rapports avec la mère absente, la mère qui est toujours là, on transporte ses cendres, mais elle est complètement hors cadre. Je peux pas dire que j'ai été conquis comme je l'ai pu l'être par d'autres films.
Lola vers la mer. En revanche, je sais que tu as été conquis par Docteur, point d'interrogation, de Tristan Seguela avec Michel Blanc, Hakim Gemili, Franck Gastambide. Comment tu ne l'as pas vu, Michel? Tu ne l'as pas vu?
J'ai beaucoup marché pour voir les films, mais là, j'ai craqué.
Alors, donc je vais te le raconter, c'est le soir de Noël, et Serge, c'est Michel Blanc, travaille, il est même le seul SOS médecin de garde. Tous ses collègues se sont défilés. Ce médecin alcoolo, nicotiné, mal embouché, n'a pas trop le choix. Il est au bord d'être radié. Et les visites vont s'enchaîner jusqu'au moment où tombe l'adresse de sa prochaine consultation, celle de Rose, qui est jouée par Solène Rigaud. Une relation de famille qu'il appelle à l'aide. Et il va arriver sur le lieu en même temps qu'un livreur, Hubert Hitz, qui va avoir un rôle déterminant dans cette histoire passionnante. C'est Malek, joué par Hakim Gemili. Il est évident que dans le genre Nuit de Noël qui dérape, on est très loin du Père Noël est une ordure, mon film culte, où je vous le rappelle quand même, je vous le rappelle, et oui, vous avez tous oublié que la voix de l'obsédé sexuel au téléphone était celle de Michel Blanc. Vous connaissez pas vos classiques, hein?
Si.
Non, mais je connais pas beaucoup d'obsédés sexuels non plus.
Oui, surtout au téléphone. Eric?
Je ne l'ai pas vu. J'ai appelé le docteur, il n'est jamais venu.
Xavier?
Ah ben moi, j'y suis allé.
Ah, t'y es allé?
J'ai fait mon boulot.
T'es le seul pro, en fait.
Absolument. Ouais, je me suis armé de courage et je suis sorti désespéré, évidemment. Bah, c'est le cas, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la comédie française de Pitch avec un casting. Alors, Michel Blanc le connaît. L'autre, Hakim Gemili, il vient visiblement du stand-up et de YouTube. Bon, ça suffit à assurer visiblement une certaine notoriété. On en a vu d'autres très passés aussi rapidement qu'il était arrivé. Donc, on a un petit espoir qu'il ne voit pas la fin de l'année. Il n'y aurait pas ce début extrêmement laborieux, on nous explique comment il va prendre la place de Michel Blanc, qui est ivre-mort, qui a le dos brisé et qui essaie de cacher à Chantal Lobby, qui ne fait qu'apparaître vocalement dans le film. Mais au
mais
moins...
ça n'est pas obsédé sexuel.
Mais non, c'est pas une obsédé sexuel. Je deviendrais volontiers un obsédé sexuel pour Chantal Lobby, si je ne l'étais déjà. Ce serait un programme court pour M6, c'est-à-dire en gros, un médecin qui ne peut pas monter, qui envoie quelqu'un d'autre de totalement inopérant et de totalement incapable, mais et qui le dirige à l'oreillette.
C'est déjà là en train de raconter quasiment tout le film.
Mais voilà, c'est le pitch, c'est une succession de situations. Il n'y a rien de social, il n'y a même pas l'envie de raconter un tout petit peu la solitude d'une nuit de Noël. Il y a quand même des sujets qu'on peut traiter à ce moment-là. Non, et puis il y a une petite graduation, et puis il finira à la fin par prendre une décision qui sera un tout petit peu autonome et qui fera dire à Michel Blanc, bah peut-être que je ne me suis pas trompé, peut-être que tu pourrais finir médecin, avec un running gag avec Franck Gastambide qui est vraiment lourdingue. Enfin, c'est le film de star, c'est le film de pitch, et c'est le film qui manque terriblement de travail, d'imagination et d'envie, en plus de gourmandise.
Y compris d'ailleurs, je trouve, chez Michel Blanc, on se demande, en dehors des intérêts financiers qui peut tirer...
Mais c'est comme le repas de Noël, c'est sec et gras.
Merci. C'est définitif, on est à 3 jours de Noël, hein, quand
même. C'est pas grave, de toute façon, je la tape chaque année.
Et ça n'est même pas remboursé par la sécurité sociale.
Camille?
Je vais être un petit peu moins sévère, parce que le marasme de la comédie française est tel qu'on va pas bouder.
Ah, Camille va être moins sévère pour
Oui, moi je suis pour docteur le cinéma pour populaire. J'aime beaucoup le Père Noël est une ordure. Donc, ah oui,
mais nous aussi, mais il peut être bien fait, t'es d'accord?
Oui, bah, c'est très mal fait, le problème. Mais c'est pas, sinon, je suis pas d'accord, il y a du social, il y a un livreur des libéraux, ce qui donne une espèce d'idée, de trame, du film à sketch où on va voir une suite de patients, ça donne des figures comme ça, plus ou moins, marrantes. tous les ressorts de la comédie à la française y sont. Après, c'est tellement mal filmé. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de...
Ah, quand même.
Pour que les films soient drôles, il faut qu'ils soient filmés. Il ne s'agit pas que ce soit du Terrence Malick, parce qu'il n'est pas drôle, Terrence Malick. Mais justement, il faut faire des chants, des contre-chants.
Il n'a jamais prétendu.
Non, justement, et il aurait du mal, je pense. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un problème de réalisation. C'est-à-dire que sur le papier, ça pouvait être rigolo. Michel Blanc, pourquoi pas. Et puis, moi, je trouve que Gassambide est celui qui s'en sort bien, parce qu'il est tellement bizarre, ce personnage. Il fait presque peur dans le côté, le type qui joue au con face au livreur docteur. Et qui le reconnaît jamais. Enfin, il y a quelque chose de complètement absurde dans le caméo de Gassambide que je trouve vraiment réussi. En revanche, le reste, comme il m'avait semblé dire que c'est intouchable, c'était la paraplégie. Cette fois, c'est une grosse sciatique que Michel Blanc, ça l'oblige à être cloué dans sa voiture et à envoyer, en l'occurrence, le petit arabe à sa place. Donc, il y a du social, mais comme intouchable, on ne dépasse pas le périph'.
Docteur de Tristan Seguela, et on termine rapidement avec The Lighthouse, un film d'horreur de Robert Eggers avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Voilà, ça se passe à la fin du 19e siècle avec deux gardiens de phare qui viennent de relever l'équipe précédente sur un îlot en pleine mer et ils doivent rester 4 semaines, mais la tempête empêchera le bateau de venir les chercher. Je vous en dis pas plus, vous me dites vous en revanche, rapidement, s'il faut y aller. Celui-là, tu l'as vu, Eric ?
Oui, bah, c'est un film d'art, il y a Willem Dafoe qui fait des paix, c'est un film d'essai, parce qu'il y a Pattinson qui fait des cauchemars, puis c'est un film fantastique parce que il y a des sirènes et de la masturbation. Donc on a 3 films en un, mais ça ne donne rien. C'est un des films les plus grotesques que j'ai vu dans l'année, peut-être même dans toute ma vie, avec une prétence...
À ce point-là, Ah oui,
c'est insupportable. Avec le noir et blanc, le format carré, Pattinson qui s'est fait une moustache à la Pancho Villa, Willem Dafoe qui, avant de se saouler, fait des citations de poésie. Ils se mettent à danser une bourrée, mais alors vraiment dans tous les sens du terme, c'est ça. Et c'est abracadabrant, bourré de références, ça ne fait pas peur une seule seconde, et on se demande ce qu'on fait là, à part si on a envie d'apprendre à tuer une mouette en la frappant contre un rocher, comme on fait pour attendrir un poulpe. Mais le film est vraiment ridicule.
Oui. Et Michel ?
Honnêtement, je crois que c'est un des plus mauvais films que j'ai vu depuis longtemps. C'est atroce.
Ah, donc toi aussi, alors,
en plus, c'est pas rien, puisqu'il a eu le prix de la presse internationale à Cannes. Il a été un événement.
Quoi ?
Fitch lui a donné son prix, le meilleur film des sections parallèles, que le film est complètement infantile, histrionique, les interprètes sont hyperboliques, la musique est insupportable. C'est grotesque, c'est un film, un EHPAD bourgeois, et d'ailleurs les bourgeois sont tombés dans le piège, mais c'est sidérant de médiocrité et de d'esbrouf. C'est vraiment la personne qui veut jouer au grand artiste, et c'est affreux.
Camille ?
Hélas, oui. Mais c'est un peu comme Terrence Malick, en fait. c'est du cinéma qui se prend
J'aime
pour...
J'aime bien les gens qui s'acharnent.
Là, j'avais décidé d'arriver en fanfare. Donc non, c'est vraiment un film que j'aime pas du tout, c'est tout ce que je déteste, à savoir l'espèce de l'arty total. Enfin, je comprends plus qu'on fasse des films en noir et blanc, en fait, j'ai jamais compris exactement à quoi ça rime. Et donc, effectivement, si, ça rime à faire que le film est plutôt de l'ordre du poétique, du cinéma muet, de la musique des images, de je sais pas quoi, de des choses très suggestives par l'image. Moi, ça me gonfle. Et en plus, je trouve que deux acteurs que j'aime beaucoup, Willem Dafoe et Pattinson, ils se donnent beaucoup. Et j'ai toujours du mal à voir deux acteurs se donner davantage que le film leur donne en retour. Donc ça me gêne. Et surtout, par exemple, La Jambe de Bois. Moi, j'adore les histoires de pirates. Mais La Jambe de Bois de Willem Dafoe, on n'en fait rien. C'est-à-dire que c'est pas Long John Silver de L'île au trésor. C'est rien du tout. Je sais pas. Il y avait de quoi faire. Et on préfère effectivement filmer les scènes de la sirène et de l'onanisme de Pattinson pendant des plombes entre deux ivresses. Je sais pas. Oui, c'est une sorte de Beckett raté. Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble.
Xavier.
Ouais, c'est le miracle de Noël. On est tous réconciliés autour de cette daube, de cette bûche, j'ai envie de dire, qui est absolument imbouffable. C'est un type qui passe son temps à nous dire, regardez comme je suis génial, extraordinaire, et je rajoute des effets, sauf qu'il a rien compris. Le film d'horreur, justement, c'est plutôt un genre qui demande le moins d'effets possible et une idée du suggestif, comme tu l'as très bien dit, du hors-champ, enfin, tu vois, de quelque chose d'autre. Donc, il appuie. C'est en noir et blanc. Enfin, vraiment, c'est tous les artifices vieillots. en plus du cinéma qui se voudrait jeune et moderne et qui ne le sera jamais, jamais, jamais. Et en plus, il cite Polanski et Kubrick comme référence. Alors, bonhomme, déjà, hein, tu vas te coucher quand même, ou tu vas les voir, enfin, tu fais l'un ou l'autre quand même. Mais non, il faut se débarrasser de ce type, quoi, c'est pas possible.
Eh bien, c'est fait. The Lighthouse de Robert Eggers. Je n'en reviens toujours pas de ce que m'a dit Michel, que ça a été primé à Cannes, avec William Dafoe et Robert Pattinson. Allez, un conseil pour Noël. Et pour terminer cette émission, on va commencer avec Camille.
Eh bien, le film Netflix que j'annonçais au début, ça s'appelle Marriage Story de Noah Baumbach. C'est un film avec Scarlett Johansson, Adam Driver, et j'en oublie, et la sublime Laura Dern, parce que je suis une fan de Laura Dern. Je pense que c'est une des plus grandes actrices vivantes, et que faudrait que ça se sache plus souvent. Et voilà, c'est un film qui est très intimiste, qui pourrait énerver beaucoup de gens, puisque c'est très bavard, c'est très new-yorkais, très intello, etc. Et c'est l'histoire d'un couple qui se sépare, sûrement en partie autobiographique, puisque Noah Baumbach ne se cache pas de s'être inspiré un peu du divorce de ses parents qu'il avait déjà filmé dans Les Bergkamps se séparent, mais aussi avec Jennifer Jason Leigh qui fut sa compagne longtemps, avec qui il a fait un film. Bon, moi j'aime beaucoup le cinéma de Noah Baumbach. On en a fait d'abord un sous Woody Allen. Je trouve que c'est pas parce qu'il est juif et new-yorkais que c'est forcément du Woody Allen. Et il a un esprit critique et un esprit sensible qui est le contraire de ce que je croyais pour Malick, c'est-à-dire qu'en fait il
arrêtez de dire du mal de mon père.
Oui, c'est ça.
J'aurais jamais pensé à les comparer.
Oui. Non, c'est juste que c'est le contraire absolu du cinéma. Et là, je trouve qu'il y a une beauté de la comédie.
Je te demande de rappeler juste le titre parce qu'il faut qu'on...
Marriage Story.
Le conseil d'Éric.
Le nouveau numéro de Schnock qui est consacré à Lino Ventura et qui est toujours aussi marrant. Et on apprend une chose, c'est que Lino Ventura a refusé la Légion d'honneur en disant « il vaut mieux la donner à ma femme ». Et paf, 10 jours après, il est mort. Oh.
Le conseil de Michel.
Alors, un coffret de 9 films chez Tamassa.
Oh, il me l'a piqué.
C'est Youssef Chahine.
Absolument.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais partagé l'admiration de beaucoup de mes confrères pour les derniers films de Youssef Chahine, les films à la Fellini, le Fellini du pauvre, les autobiographiques, etc. Par contre, ça a été le plus grand cinéaste arabe. Et les mélodrames qu'il a fait dans les années 50, en particulier Gare Centrale ou La Terre ou Le Moineau, sont vraiment de très grands films. Et grâce à cette édition très très soignée, restaurée, avec un livret très complet sur l'œuvre de Chahine, on voit vraiment un très grand cinéaste. Ça commence avec Les Eaux Noires et Ciel d'Enfer. Tous les films sont vraiment passionnants. Et ça nous restitue le grand Chahine.
Et c'est chez Carlotta, hein, c'est ça?
Non, chez Tamassa.
Ah, Tamassa. Le conseil de Xavier pour finir.
J'en ai plus, là, j'ai été privé, ma hôte est vide.
T'as d'autres choses, t'as.
Alors, je suis pas d'accord. Chahine a été un grand cinéaste jusqu'au bout, mais tu as raison. C'est intéressant de voir, de revoir, en tout cas, des films qu'on voyait moins, comme Ciel d'Enfer ou Les Eaux Noires, où il tourne le très jeune Omar Sharif, et le tourne quand même avec une gourmandise et une voluptuosité qu'une dissimulant rien les sentiments que Chahine peut avoir pour son comédien, quand même, il le fétichise et l'érotise de manière assez...
D'autant plus que ce n'était pas réciproque.
Donc ça n'était pas réciproque.
Ça a augmenté le
désir.
Moi,
je vais vous recommander un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Paoki, une jeunesse américaine, signé à 80 Yvette Lucas et Patrick Bresnan, qui se passe dans un lycée noir américain. Ça n'est pas le sujet, mais ça va le devenir en filigrane, où on voit donc la fanfare, les pop-pom girls, et effectivement, on se dit qu'à l'époque de Trump, à l'époque d'une Amérique qui se dit avoir dépassé la ségrégation, il y a encore des lycées qui sont 100% noirs. Et on se dit que oui, la ségrégation aux États-Unis, elle est terriblement et dramatiquement d'actualité.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Éric Nehoff, Michel Simon, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au théâtre de l'Alliance Française. À la technique, et je les remercie, il y avait Yvan Charby, Valentin Azan Zielinski et Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 16 janvier. C'est au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour 2 émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.